Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est le procès. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'usage des nouvelles technologies dans la justice contemporaine et future. Le juge se dirigea vers sa table de travail, il déroula un écran plat et l'alluma. Il se pencha vers une caméra miniaturisée, les progrès de la biométrie permettaient par une photographie de l'iris de sécuriser son accès. Il vérifia la date, nous étions le 9 janvier 2059. Il était entré dans la magistrature française dans les années 2010, lorsque 10 ans plus tard, les États ou ce qu'il en restait avaient délégué au secteur privé le soin de rendre la justice, il avait été embauché par une entreprise de justice qui était elle-même rattachée à une société multinationale. La lutte planétaire entre les 10 dernières entreprises de services judiciaires devenait de plus en plus rude et quelques années plus tard, les audiences avaient disparu. Chacun s'accordait à dire qu'il s'agissait de temps perdu et que le juge ferait mieux de consacrer son activité à l'examen direct des écritures dématérialisées. Ceci est une fiction signée Hubert Dahl et prononcée en janvier 2009 à la vraie cour d'appel de Rouen, fiction qui n'avait pas prévu le reportage Snapchat du procès Nabila. Tout bouge, il est 14h passé de 2 minutes, vous écoutez France Culture, bienvenue dans les nouvelles vagues. Les nouvelles vagues découlent souvent de moments marquants, des instants de bascule qui portent le renouveau. Cette semaine, c'est le musicien malien Balaké Sissoko qui partage le récit de ces moments-là. Il raconte aujourd'hui ses débuts en solo et les collaborations qui s'en suivirent, en France particulièrement, avec des musiciens d'horizons différents. Son expérience au sein de l'ensemble instrumental national du Mali depuis son plus jeune âge, avec des artistes dont il ne partageait pas forcément la langue ou la culture, l'avait préparé à cette ouverture essentielle, musique universelle vers 14h45. Troisième moment de cette semaine thématique autour du procès. Aujourd'hui, on se demande de quelle manière l'usage des nouvelles technologies modifie l'ensemble de la procédure pénale et sa culture. Plusieurs moments clés, les premiers essais de visioconférence, par exemple aux États-Unis dans les années 70, 1980 et le début de l'informatisation de centaines de fichiers et de données dans la justice française, les années 2000 et la démocratisation d'Internet, la généralisation des téléphones intelligents, donnant un accès définitivement plus large à la jurisprudence et aux textes de loi. Mais aussi toutes les techniques d'envoi de documents, de partage de preuves qui font peu à peu passer de l'ère du papier si important à l'ère de l'octet. Sophie Santaconic, rencontre obligée et confrontation à équilibrer entre les nouvelles technologies et la défense pénale, c'est un des thèmes de votre thèse publiée chez Maré Martin qui a reçu le prix Vendôme en 2014. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous enseignez en tant qu'ATER à l'Université Paris 13 Villetaneuse, vous enseignez le droit pénal et le droit privé. J'ai commencé par une fiction et on continue par une fiction.
Vous êtes en retard. Il y a 1 h 5 minutes que vous devriez être là.
En retard ou pas?
Passons pour cette fois, mais que cela ne se reproduise plus. Approchez, je vous prie. Vous êtes peintre en bâtiment.
Et non, je suis... La question de monsieur le juge d'instruction relative à ma prétendue profession de peintre en bâtiment est caractéristique du soi-disant procès qui m'est intenté. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder le registre de monsieur le juge d'instruction. Admirez !
La raison, mon gars !
Admirez les dossiers de monsieur le juge d'instruction. Ce qui m'arrive à moi n'a pas une grande importance. Mais sachez que mon cas n'est pas unique et que d'autres pourraient bien subir un sort semblable au mien. C'est aussi pour cela que je suis venu ici, et pas seulement pour moi.
Laisse-moi faire.
On est venu dans une situation ridicule et infâme. Et le plus grave, si je m'en réfère aux paroles de monsieur le juge, le plus grave, c'est qu'ils avaient l'ordre d'arrêter un peintre en bâtiment, probablement aussi innocent que moi. Et que c'était de se faire acheter par moi, de voler mes chemises. Pourtant, j'ai gardé mon calme, je leur ai poliment demandé pourquoi on m'arrêtait. Et savez-vous ce que m'a répondu votre soi-disant inspecteur? S'il était là, il ne pourrait faire autrement que de confirmer mes dires. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Rien du tout. Il était chargé de m'arrêter. C'était suffisant. À l'instant, monsieur le juge vient de faire un signe à quelqu'un dans cette salle. Bien entendu, j'ignore si par ce signe il vous ordonne de m'applaudir ou de me siffler. Mais j'invite publiquement. Monsieur le juge d'instruction a donné ses directives à haute voix et en termes clairs. Il n'a qu'à leur dire applaudissez ou bien siffler. Aucun doute n'est permis. Mon arrestation, aussi bien que les conditions de ces interrogatoires, démontrent clairement l'existence d'une puissante organisation. On choisit n'importe qui, on l'accuse de n'importe quoi et on juge n'importe comment.
C'est vous qui avez souhaité, Sophie Zantakoenig, d'entendre cet extrait du procès d'Orson Welles, tiré du texte de Kafka. C'est un film sorti en 1962. Pourquoi avoir voulu entendre ça ?
Parce qu'il me semble que c'est une illustration, peut-être l'illustration, du fait qu'un procès est avant tout une rencontre particulière d'un temps et d'un lieu donné. Et que lorsque ces critères spatio-temporels ne sont plus affirmés, quand il n'y a plus de telles limites, on aboutit à une situation de paralysie extrême, absolument déroutante, à laquelle est confronté dans l'extrait que vous avez passé Anthony Perkins, qui joue le rôle d'un justiciable qui se trouve démuni face à un appareil judiciaire qui n'a plus de limites.
Et donc vous diriez que ce temps et cet espace nécessaire justement à la bonne tenue d'un procès et par conséquent à la bonne tenue de la justice, il est bouleversé par l'arrivée des nouvelles technologies ?
Il est bouleversé parce que si on revient à ce qu'est le procès à la base et notamment à ce qu'en ont dit d'autres juristes éminents qui ont travaillé sur la question. Le procès, c'est un cadre, c'est un lieu, un temps, c'est une action. Donc il y a une triple unité en ce sens. C'est pour ça qu'on le compare souvent à un théâtre, finalement, à une scène de théâtre. Et ce cadre est nécessaire. Donc introduire un élément nouveau, une nouvelle composante au procès, qui est beaucoup plus nouvelle et novatrice, ça perturbe. Ce cadre introduit est nécessaire à la vie même du procès.
Alors quand on dit introduire des nouvelles technologies, c'est extrêmement vaste. Je citais simplement pour illustration et pour point de départ à notre réflexion les premières visioconférences, les premiers tests qui sont faits en 1970, mais aussi l'informatisation de données, de dossiers dans la justice française un peu plus tard, ou encore l'accessibilité à des textes de loi, à la jurisprudence dans les années 2000, et il y aurait plein d'exemples. Ça veut dire tout ça, l'introduction des nouvelles technologies dans la culture pénale et dans la procédure pénale?
Ça veut dire tout ça et ça veut dire bien plus encore même. Effectivement, il faut commencer par définir ce dont on parle. On parle de nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'ailleurs, elles ne sont pas si nouvelles que ça. Vous avez cité des dates qui sont maintenant un peu anciennes. On peut les définir, on le dira, comme c'est un ensemble de ressources finalement et d'outils qui vont permettre de traiter l'information, de la stocker, de la gérer pour ensuite la transmettre, avec donc une idée de transmission, la conserver et ensuite la retrouver ultérieurement. Donc on est sur un processus qui est complexe et qui s'étale dans le temps, qui s'inscrit dans une durée assez longue. Donc il y a plusieurs exemples, parmi lesquels ceux que vous avez cités, la visioconférence, l'utilisation de dossiers. Donc on va distinguer des technologies qui permettent le traitement de la source d'information, l'écrit, l'image, le son, des technologies qui vont permettre d'échanger le contenu de ces informations. Et là, on pense notamment à la visioconférence ou à la communication électronique.
Alors, on voit bien comment toutes ces nouvelles technologies pénètrent à une vitesse, nouvelles technologies, mais techniques aussi, et usage de ces techniques pénètrent à une vitesse grand V dans tous les secteurs de la société, dans tous les foyers, dans toutes les poches. Est-ce que l'endroit du procès, l'endroit du tribunal, absorbe facilement ces nouvelles technologies ? Est-ce que ça va vite, aussi vite ?
Il les absorbe, c'est pour ça que j'utilisais la... l'image de nouvelles composantes du procès, il est obligé de les absorber parce qu'on introduit ces nouvelles technologies, ces technologies dans les règles maintenant du procès. Est-ce que ça va aussi vite ? Non, la technique change à une vitesse qu'on lui connaît et le procès, lui, fait appel à des éléments qui sont beaucoup plus figés et qui ont beaucoup plus de mal à évoluer à la même vitesse, d'où un certain nombre de difficultés qui ne sont pas encore résolus.
Et aussi, peut-être on y reviendra aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément ces points du procès, pas forcément intérêt à évoluer, et qu'il y a des raisons pour que certains points du procès restent stables, quitte à être transformés. Je lisais en introduction une fiction que vous reportez plutôt à la fin de votre thèse, une fiction d'Hubert Dahl, prononcée en janvier 2009, qui se met dans la peau d'un juge arrivant au tribunal en 2059, déroulant un écran plat, déverrouillant son écran par l'iris. C'est une fiction qui est loin de nous aujourd'hui. On est quelques années après qu'il l'ait prononcée. Aujourd'hui, un juge qui arrive et qui déroule un écran plat, qui s'identifie par biométrie, c'est quelque chose qui est très lointain.
Qui n'est pas si lointain. On a une évolution qui nous rapproche de certains éléments qui sont décrits, notamment avec l'introduction de plus en plus d'écrans dans les salles d'audience. Malgré tout, ça reste une évolution qui est réfléchie.
Ils sont où les écrans dans les salles d'audience ?
Alors, à l'heure actuelle, ils sont pour l'instant déjà en nombre assez restreint. Ils sont positionnés généralement sur le côté de la salle, de façon à être visibles par les personnes qui doivent les voir, donc les personnes qui vont comparaître ou par les magistrats. Et ils vont être placés certainement à des endroits différents. Je dis ils vont parce que le palais de justice de Paris va être délocalisé, va changer de place. Et avec la construction d'un nouveau palais, se renouvellent les réflexions en la matière sur tout ce qui a trait à la symbolique judiciaire et notamment donc à l'introduction des nouvelles technologies dans ces salles d'audience, à la façon dont il faut les introduire pour leur permettre de coexister avec des principes fondamentaux du procès.
Et avec un décorum, une mise en scène, ce que vous disiez
et
aussi.
Et avec un décorum, une mise en scène qui est nécessaire et fondamentale à la tenue d'une audience.
Oui. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces écrans qui sont là et on y diffuse quoi ?
On y diffuse le témoignage de personnes qui se trouvent à distance. On y diffuse des interventions donc orales de personnes qui ne peuvent pas être physiquement présentes lors d'une audience. Donc ça peut être des témoins, ça peut être des experts. Quand la personne qui est mise en cause dans un procès qui devrait être là, qui devrait être dans le box des accusés, si on pense à un procès d'assises, n'y est pas pour des raisons de sécurité ou d'autres raisons, elle peut comparaître depuis sa maison d'arrêt, depuis un établissement pénitentiaire.
Et à ce moment-là, la vidéo est diffusée au même titre qu'on l'appellerait à la barre pour qu'il témoigne, et ça arrive dans le déroulé justement de la mise en scène du procès, au même moment où lui ou elle se serait levé pour témoigner à la barre.
Voilà, exactement.
Dans le début de votre thèse, j'ai cité la fin, vous vous interrogez sur les raisons qui poussent aujourd'hui à choisir le métier d'avocat au XXIe siècle. Pourquoi est-ce que, et vous remontez très loin, vous remontez aux origines du métier d'avocat, vous remontez à l'Antiquité, vous remontez à toute cette culture justement. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de faire ce travail historique si profond avant d'aller vers ce que réserve le XXIe siècle à la justice ?
Concernant spécifiquement la profession d'avocat, parce que déjà, ça me tenait à cœur, parce que j'ai engagé ces réflexions alors qu'à l'époque, j'étais moi-même avocat. J'ai débuté dans le cadre de cette profession avant de m'orienter exclusivement vers un travail universitaire. Donc j'avais besoin, en tant que jeune avocat qui commençait sa profession, d'aller rechercher à ces origines-là pour comprendre le fonctionnement du métier auquel, finalement, à l'époque, je me destinais. Et aussi parce que quand on étudie des aspects aussi changeants et novateurs que les technologies, il y a une confrontation à un moment donné qui est nécessaire avec ces pratiques plus anciennes, puisqu'on constate quand on exerce dans les juridictions qu'il y a un décalage entre ce qu'on essaye d'instaurer avec l'introduction des technologies et ce qu'on nous enseigne encore, même à l'époque présente, à l'école d'avocat.
Mais c'est un décalage qui touche jusqu'au sens. Hier, on entendait des jeunes avocats décrire les raisons pour lesquelles ils s'engageaient dans ce métier. L'introduction des nouvelles technologies vient jusqu'à questionner le sens de cet engagement ?
Le sens de cet engagement, si on essaye de lui trouver un sens nouveau, un sens dynamique, une dynamique positive. Moi, je l'ai interrogé pour savoir comment je pouvais faire évoluer cette profession à mon échelle, à mon niveau, dans la façon dont moi j'allais exercer à l'époque le métier. Parce que les nouvelles technologies peuvent être utilisées par les avocats pour un autre objectif, si vous voulez. Il n'y a pas qu'une introduction au niveau de la procédure, ça ne vient pas que bouleverser des règles de procédure dans la tenue d'un procès. Les technologies, elles interviennent également dans la recherche des preuves. Un procès, c'est une affaire de preuves. Il y a une relation étroite entre la recherche d'une preuve et la détermination de la vérité juridique. Et les technologies de l'information et de la communication ont un rôle à jouer dans la détermination et l'obtention des preuves.
Alors si on donne quelques exemples pour être plus concret, où est-ce qu'arrivent les nouvelles technologies dans une nouvelle façon d'obtenir des preuves ?
Alors, elles arrivent par des techniques de géolocalisation, elles arrivent par des techniques de sonorisation, de perquisition informatique. Elles arrivent par l'interception d'un contenu qui est dématérialisé. Donc, c'est un nouveau champ probatoire qui est à explorer, qui, comme toute nouvelle technique probatoire, a des avantages et des inconvénients. et qui présentent encore des failles au niveau de leur mise en œuvre, qu'il était à mon sens du rôle de l'avocat d'aller explorer, d'aller questionner, et donc qui méritait d'être mise en évidence dans le cadre du procès. C'est aussi le rôle du procès, quand on réfléchit au rôle de l'avocat, d'aller discuter les preuves qu'on soumet à son analyse, qu'on soumet à l'analyse des magistrats.
Ce qui a changé, c'est très concrètement, c'est une manière de faire les procès et c'est une manière de comprendre ce qu'on pouvait tirer des nouvelles technologies. Alors la grande idée de la justice, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation des procédures, c'est-à-dire que désormais on va échanger des arguments, des pièces, des preuves, non plus sur du papier, mais sur des signes électroniques par l'intermédiaire de sites dédiés, notamment je pense au fameux RPVA pour les avocats.
Le réseau privé virtuel des avocats.
Qui est une véritable révolution qui bouscule les pratiques des gens de justice, qui bouscule parce que tout d'un coup il y a des possibilités nouvelles et ambiguës. La possibilité, c'est de pouvoir aller plus vite, on y reviendra. La possibilité aussi, c'est pour les juges et pour chacun de pouvoir rentrer dans un dossier et de voir où il en est, comment ça évolue, pour chacun des professionnels. Et on se rend compte que, par exemple, ça a modifié, ça a transformé le rôle des juges dans les dossiers.
C'est-à-dire, là, je ne comprends pas.
C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a un juge qu'on appelle le juge de la mise en état, qui est celui qui est un peu celui qui donne le calendrier. Il dit, vous allez conclure à telle date, et puis vous allez répliquer à telle date, et puis si vous avez encore des choses à dire, telle date. Bon. Et c'était un rôle qui était assez, formel. Mmh. Et tout d'un coup, par l'informatique, il change de nature. Il devient beaucoup plus inquisitorial. Il devient beaucoup plus inquisiteur. Il peut hâter. Et donc, il y a une crainte de la part des professionnels, des avocats, de formatage, à tous les sens du terme. C'est-à-dire, vous formatez nos conclusions, vous formatez notre pensée, vous modélisez notre manière d'argumenter.
Ici la voix d'Antoine Garapon au micro de Xavier Delaporte dans l'émission Place de la Toile. C'était en octobre 2013. Les choses ont changé, ça bouscule les pratiques des gens de justice, dit Antoine Garapon. Et il cite, par exemple, pour essayer d'être le plus concret possible, un réseau où s'échangent des choses entre avocats. Vous citez des applications, par exemple Légimobile ou Mobidroit, qui sont des applications dont il faut détailler l'usage, mais qui sont pour le coup vraiment des ouvertures vers de nouveaux usages. De quoi s'agit-il ?
Alors effectivement, Antoine Garapon, il parle du fait de bousculer ce rituel, d'introduire un nouveau rituel et de nouvelles pratiques. Les pratiques, elles sont multiples. Il parle d'un réseau. Le réseau, on l'utilise pour la communication électronique. C'est la première des technologies, une des premières que j'ai citées tout à l'heure, donc pour permettre un échange de contenu entre deux personnes, et c'est des réseaux qui sont sécurisés pour permettre un échange sécurisé, pour encadrer le transfert de ces données.
Mais parce qu'on parle de changement, il faut quand même qu'on essaie de déceler là où ça bouge et ça change, parce que, je veux dire, si j'envoie mon dossier par la poste à mon collègue ou au juge, j'échange aussi des informations avec mon collègue ou le juge ou l'autre avocat ou mon client, et d'une certaine manière, le réseau permet de faire strictement la même chose.
Le réseau permet de faire la même chose, pas franchement. Quand vous mettez un document sous pli et que vous l'adressez à la poste, a priori, votre document, a priori, mais évidemment, il ne s'égare pas. Il est dans un transfert, un cheminement qui est matériel. Là, on est dans un transfert qui est immatériel, un transfert de données. La donnée, c'est volatile et donc ça se disperse. Donc il y a un risque de fuite de l'information qu'on veut limiter et qu'on veut encadrer. Donc on n'utilise pas des canaux de transmission qui ne seraient pas sécurisés. On les sécurise davantage. On va parler non pas d'un Internet, mais d'un intranet à disposition des professionnels. On utilise des canaux de transmission qui conduisent à passer par des réseaux privés. Donc réseaux privés virtuels à disposition des avocats, réseaux privés virtuels à disposition de la justice. Donc on scinde en ça même des réseaux les professionnels à qui ils s'adressent. On établit, si vous voulez, des frontières dans un monde virtuel, finalement.
Et concernant les justiciables, puisqu'il y a aussi toute forme de réseau ou de nouveaux accès, alors on parle par exemple à partir des années 2000 à un nouvel accès à la jurisprudence, qu'est-ce que ça change pour les justiciables ?
Ça offre un accès beaucoup plus important à l'information, puisque grâce à cette dématérialisation dont Antoine Garapon parle d'ailleurs de l'information, on met à la disposition du justiciable une quantité beaucoup plus importante d'informations. Alors ça fait appel en même temps à la capacité de savoir y accéder et de savoir s'en servir et appréhender l'information. Tout le monde n'est pas à égalité face à l'accès dématérialisé à l'information. Tout le monde n'a pas la même capacité à y accéder d'un point de vue matériel, déjà, et ensuite d'un point de vue intellectuel. Donc on parle de fracture numérique, finalement, entre les justiciables, parce que certains auront une grande facilité à pouvoir se saisir de cette information. Vous parliez des sites en ligne qui offrent un accès aux jurisprudences, qui offrent un accès à certains articles juridiques, à ce qu'on appelle de la doctrine au niveau juridique. Certains n'ont pas cet accès-là, ne l'ont pas, non pas d'un point de vue technique, mais parce qu'ils ne sauront pas appréhender tout ce qu'il a, tout ce qu'il se trouve sur ces sites.
Et pour ceux qui savent l'appréhender, ça fait quoi? Ça fait des justiciables plus autonomes face à la justice?
S'il y a une bonne utilisation de l'information qui est dessus, on gagne en autonomie. On gagne en autonomie parce qu'on a une information plus précise et plus ciblée de la recherche. C'est ce que permet de faire de façon globale un moteur de recherche. On arrive à affiner sa demande, à affiner ce qu'on recherche avant éventuellement d'aller consulter un autre spécialiste juridique, un avocat, un conseil. Mais ça peut aussi noyer dans l'information et il faut arriver à délimiter, à faire la part des choses entre les informations qui existent sur Internet, puisque là on parle d'Internet et non plus d'intranet. Intranet, c'est encore une fois à disposition des professionnels. Le justiciable lambda, lui, aura accès à ces données sur Internet et circule un grand nombre de données dans lesquelles il va devoir naviguer et dont il va falloir qu'il arbitre finalement entre ce qui l'intéresse, ce qui ne l'intéresse pas et ce à quoi il peut apporter de la crédibilité.
Antoine Garabon parle d'un rapport au temps, d'un rapport à la vitesse, les enjeux de l'introduction des nouvelles technologies dans les procédures pénales, c'est ça? C'est une accélération des procédures? C'est plus de rapidité dans certains dossiers?
Les enjeux qui étaient souhaités, c'est cela. C'est accélérer les procédures, c'était gagner du temps, gagner de l'argent. Il ne faut pas oublier ce volet de la question. C'est-à-dire qu'à la base, les technologies de l'information et de la communication, initialement, sont introduites dans un souci de réformer l'appareil judiciaire qui se trouve confronté à des impératifs économiques aussi. Donc, il faut faire gagner du temps, il faut faire gagner de l'argent à cet appareil judiciaire pour introduire une certaine rationalisation de l'administration de la justice. Donc, des gages d'efficacité et de qualité qui ne sont d'ailleurs pas recherchés que par la France, hein, un ensemble de pays au niveau européen.
Ni que par la justice,
ce souci de ces aspects-là. Donc, ça fait gagner du temps également aux justiciables qui utilisent ces techniques, évidemment.
Quand Antoine Garapon parle d'un risque de formatage ou reprenant les propos de juges ou d'avocats qui disent « nous avons peur que nos décisions soient formatées parce qu'elles sont informatisées », c'est quelque chose qui a été retrouvé dans différents entretiens, dans vos recherches?
Oui, c'est quelque chose qui est décrié par certains, qui est redouté par d'autres. Parce qu'en même temps que l'on introduit ces techniques avec la volonté de mettre en avant leurs avantages, et ils sont indéniables, il y a également des inconvénients qui sont certains et qui sont notamment donc celui du formatage. Formatage pourquoi? Parce qu'on va utiliser des bases de données qui vont donner des trames, notamment aux magistrats lorsqu'ils vont rédiger leurs décisions. Mais donc on va influencer et encadrer leur façon de rédiger ces décisions. On va leur donner un corps préexistant dans lequel eux, ils vont se glisser. Donc il y a une certaine crainte de formatage et de modélisation quand on pense à la décision judiciaire qui est redoutée et qui est décriée.
Mais là, c'est pas tant l'introduction de la nouvelle technologie que l'usage que propose d'en faire une éventuelle réforme politique de cette nouvelle technologie. Ça fait penser à des choses qui existent dans la médecine, par exemple, ou en psychiatrie ou en psychologie, avec des formulaires, avec des évaluations par informatique où des cas sont rentrés en cochant des cases. Finalement, est-ce que ce sont les réformes politiques appliquées à l'espace de la justice qui n'orientent pas l'usage de ces nouvelles technologies?
Il y a une orientation, mais la différence avec les exemples que vous citez, c'est qu'on est ici dans la sphère judiciaire, avec les enjeux qui lui sont spécifiques, et notamment en pénal, avec une question de l'humain derrière et du jugement.
En médecine aussi.
En médecine aussi, mais quand on pense aux formulaires dont on parle pour la décision judiciaire, ils ne sont pas d'ailleurs offerts pour tout type de jugement. On ne rend pas des jugements par formulaire dans toutes les affaires, bien évidemment. Il y a une certaine modélisation qui est possible dans certains types de contentieux, des contentieux qui sont très simples, qui ne révèlent pas, si vous voulez, d'appréciation de l'humain, parce qu'un formulaire ne le permet pas. Et quand on pense aux dérives, on pense à l'intelligence artificielle et à ce que permettrait de faire, poussé à son paroxysme, la technique en ça. Est-ce qu'on pourrait aboutir finalement à se passer de l'humain complètement pour remplacer le jugement humain et arriver à une décision qui serait complètement artificielle?
Il y a des recherches
en ce sens.
Et là,
le bas blesse. Oui, il y a des recherches en ce sens. Elles sont beaucoup plus nouvelles, si vous voulez. Il y a un stade moins avancé en matière judiciaire qu'elle ne le serait, par exemple, dans d'autres matières, comme dans le champ médical. Il y a des recherches qui ont lieu au CNRS, notamment, et qui aboutissent au constat suivant, c'est que la technique est de plus en plus spécialisée. On peut aujourd'hui faire une approche binaire des questions. Certains cas sont simples, d'autres sont plus complexes. On peut arriver à informatiser une certaine recherche à cet égard, mais ça ne remplace pas et ça ne remplacera pas le jugement humain et l'appréhension humaine de l'affect et d'une situation. On a un problème d'éthique computationnelle qui se pose et que la machine n'arrive pas à remplacer. On a l'exemple très récent de l'utilisation de la machine dans le jeu de Go. Il y a eu une chronique et des articles qui ont été rédigés dans le journal Le Monde sur l'utilisation justement de l'informatique, de cette intelligence artificielle mise au service de plusieurs situations et notamment dans le jeu de Go. À la différence du jeu d'échecs, on est dans un jeu qui offre un nombre multiple de situations et dans laquelle le joueur était confronté à une machine et il s'est trouvé que la machine avait réussi à dépasser l'intelligence du joueur physique, du joueur d'échecs et du joueur de Go à l'heure actuelle, dans une situation pourtant à la base qui relevait de l'analyse, de la tactique. Donc la machine a réussi un réel progrès à cet égard. Donc si on transfère ça, appliqué à un raisonnement juridique, on peut pousser au paroxysme la réflexion en se demandant jusqu'où l'informatisation, l'introduction de nouvelles techniques pourrait aller dans le cadre d'un procès et le fait de savoir si finalement on ne pourrait pas se passer complètement de l'humain, en l'occurrence de magistrats, pour aboutir à une décision.
Et aujourd'hui, pour le système judiciaire français, qu'est-ce qui est exigé ou à quel point il est exigé que pénètrent les nouvelles technologies dans cette procédure ou dans ces procédures pénales ?
Alors, il y a des exigences qui ont été portées toujours sous couvert d'impératifs de rationalisation en ce qui concerne la visioconférence. Il y avait des impératifs qui avaient été posés d'un certain pourcentage de visioconférences réalisées en juridiction. Donc c'était mesuré, d'où cette idée de contrôle de l'activité des praticiens. Car si on n'atteignait pas, c'était un seuil de 5% d'audience en visioconférence, si on n'atteignait pas ce seuil, on avait un budget qui était alloué à la juridiction qui pouvait être adapté, pondéré. Donc on avait des critères vraiment tangibles, si vous voulez, d'utilisation de l'outil. Maintenant, à quel point d'autres techniques sont introduites de façon obligatoire, quand vous parliez des réseaux privés, l'utilisation du réseau privé virtuel avocat pour les avocats, en matière civile désormais, pénale, pas encore, mais ça ne saurait peut-être tarder dans certaines situations, on a une obligation pour l'avocat de communiquer par voie électronique ou en tout cas d'acquérir une clé, concrètement c'est une clé USB, qui va lui permettre de se connecter à ce fameux réseau privé virtuel et d'échanger avec d'autres avocats. On ne peut plus rester à la marge de la technique en tant que praticien. Il est très important que les professionnels du procès, quels qu'ils soient, s'adaptent eux aussi à l'utilisation de ces nouvelles techniques.
Et il y a des réserves ou des réticences, il y a des réserves puisqu'on parle de culture pénale, est-ce qu'il y a des réserves en fonction des générations par exemple ?
Oui, elles sont nombreuses les réserves. Il y a une réserve de génération parce qu'évidemment les professionnels qui il y a de nombreuses années maintenant commençaient leur exercice professionnel n'y étaient pas confrontés ou alors c'était quelque chose de tout à fait débutant. Mais il y a également des réserves de la part des nouvelles générations. Alors elles sont multiples, elles peuvent être attachées à des spécificités du procès, à des mécanismes anciens dont vous parlez. Il est important de conserver un certain nombre de garanties du procès. Mais elles traduisent aussi le fait que même les nouvelles générations ont certaines réticences par rapport à l'utilisation des techniques, parce que c'est dans l'esprit et dans le vécu, c'est toujours synonyme de faille, d'incident que chacun garde à l'esprit. Et donc cette capacité à changer, au changement, fait encore peur, quelles que soient les générations, même si évidemment les nouvelles générations sont obligées de s'y de s'agrémenter de cette technique, puisqu'on tend à leur imposer de plus en plus.
Et même si les failles et les incidents existent tout à fait chez le genre humain.
Même si les failles existent chez le genre humain, mais comme vous le soulignez dans le cas du transfert par la poste d'un courrier papier, elles existaient avant aussi, ces failles. Il faut simplement avoir conscience qu'elles existent avec l'introduction des nouvelles techniques, ne pas occulter le fait qu'il y aura quand même des failles, qu'il faut continuer les réflexions pour essayer de les résorber. Malgré tout, elles existaient également avant. Donc il y a un bouleversement, un basculement d'un rituel global vers un nouveau rituel qui lui aussi est amené à connaître des failles. Et en tout cas, il faut s'y intéresser. Il faut être amené à le comprendre pour l'utiliser. C'est surtout ça le langage.
Do you recall that any criminal actions were pending against you at the end of 2008?
I don't recall any.
Do you recall being at all concerned about any criminal actions that may have been pending against you at the end of 2008?
I don't recall.
Do you recall that in the summer of 2007 you were arrested in New York City following a performance at the Beacon Theater?
I don't recall that.
Yeah, I'm the only one to get the job done. I don't know a nigga that could cover for me. Yeah, got some game from my day. So she might say she love me, she don't love me like she say she love me. Believe me. Boy, they love me in the street. I'm not trying to find nobody else to be. I'm the one they come to see because they all believe me. Yeah. Rip. Rip, rip. It's been me and Young Tune off the rip. That's the man that put me in the shit. If a nigga fuck with him, I put him down quick. Got a verse for anybody who won't talk about the clip. I've been taking shit like you don't wanna hear me trip. Goddamn, do y'all really know who y'all fucking with? Yeah, I mean you can't blame me for wondering. Doesn't matter, could be winter or the summer on the road. I do One Direction numbers, I don't fucking miss. Yeah, Stunner and Magno. When Wayne was gone for 8 months, we put this thing up on our back. And I was snapping off on every single track though. Collect card from the boss like where we at though. I was like, huh, it's our time, nigga. He left Rikers in the Phantom, that's my nigga. And I be rocking with the team that caught a nine. And we YMC and be waiting on somebody to try us, nigga. Yeah, I'm the only one to get the job done. I don't know a nigga that could cover for me. Yeah, got some game from my day. So she might say she love me, she don't love me like she say she love me. Believe me, believe me. I'm that nigga, boy, they love me in the street. I'm not trying to find nobody else to be. Couldn't see because they are, believe me. Lord knows I murk one of these now. His and hers Ferraris, nigga. One for me, one for my daughter, nigga. Waiting for someone to test me like a Harvard, nigga. I told her 223, two Michael Jordans, nigga. Fight these shell casings like a lawyer, nigga. Find out where you stay and act like we find some oil, nigga. Out of duct tape, so when he praying, I ignore the nigga. All I gotta say is sayonara, nigga. Drop dead gorgeous, but the bitch ain't dying for a nigga. Where the real queens at? Shout out Capone and Noriega. We could shoot it out and see who lived to tell a story. Little diamonds in my rolling face. Can I be exfoliated? They think I'm associated. I'm the one that orchestrated. Yeah, yo, get a ass whipped. Whip that ass like horses racing. Ain't about what you walk away from, it's about what you walk away with. I'm the only one to get the job done. I don't know a nigga that could cover for me. Yeah, got some game from my day. So she might say she love me, she don't love me like she say she love me. Believe me, believe me. I'm that nigga, boy, they love me in the street. I'm not trying to find nobody else to be. I'm the one they come to see because they are. Believe me. Rip, rip, nigga. Get it poppin' off the rip. Rich young nigga that ain't never had a trick. Slim thug flow, but you know I like them thick. If she get a job at DOA, I drop her off a tip. I had to get it poppin' off the rip. I'm the one they tell you been reppin' in the six.
coming to the city and your niggas get to tripping. Well, take you to the Scarborough Bluff and drop you off a cliff. Well, damn, just be happy for the man. Nirvana, Coldplay, nigga got bands. Ink from the money, got it all over my hands. Going out to Houston, spending all of my advance. Be live, just tell me for a check. Drake, you know I love you, you just took me out of debt. Yes, right now, you are looking at the best. Motherfucker war shows and motherfuck the press like that. Motherfuck the rest. When they jumped off the porch, I was stumbling up the steps. I give what I collect before I give up my connect. It be a cold day in hell, icicles made of sweat. One thing, sliding across my neck. Niggas know what that mean, like they deaf. Nigga, I fight this Nina like this. Our first day on the job and the bitch overslept. Tune stay humble, nigga, I'm a king. Need a horn and a drum roll. They throw motherfucking roses at my feet, nigga. I don't step on one road, yeah. I'm the only one to get the job done. I don't know a nigga that could cover for me. Tape a couple kilos to the bitch stomach. She look like she got a bun in the oven for me. Preheat, believe me. All you gotta do is pay me every week. I had these bitches having babies every week. I'm the nigga see me skating in the streets, gone.
On est en train de déshumaniser la justice et d'aller beaucoup trop loin dans la dématérialisation. Il ne faut pas que cette justice devienne désincarnée ou incarnée uniquement par des octets, des écrans, des robots. Le juge, il doit continuer à prendre le temps d'écouter le justiciable, d'écouter les avocats. Et cette écoute est importante pour comprendre la dimension humaine d'une affaire. Imaginez cette situation improbable. Le prévenu dans cette salle de visioconférence à la prison, le juge dans son bureau, l'avocat, on ne sait pas s'il est avec le juge ou s'il est avec le prévenu, peut-être dans un cybercafé. On ne peut pas aller chercher la vérité derrière des écrans glacés. Comment est-ce que vous allez entendre les silences, les émotions, les battements de cils de l'individu? Ces petits signes sont tellement importants pour faire émerger la vérité.
On entend ici la voix de Christiane Feral-Schul juste après avoir entendu une déposition assez drôle du rappeur Lil Wayne suivie d'un morceau qui s'appelle Believe Me. Il ne faut pas déshumaniser la justice. Elle parle des écrans glacés, d'une distance en fait grandissante entre tous les membres, tous les personnages du procès, tous ceux qui ont un rôle, le justiciable, l'avocat, le juge. Est-ce que c'est la place grandissante des écrans menace justement la proximité nécessaire au bon jugement et à la bonne justice, Sophie Zumthat-Koenig?
Oui, on assiste à une adaptation nécessaire dans la fonction de jugé qui, initialement, repose sur la recherche de cette juste distance entre la personne qui va être jugée et la personne qui est son juge. Cette juste distance, cette nécessité, si vous voulez, de présence physique également, on parle d'un principe de présence entre les personnes qui composent le procès, tend à être altérée par la technique, au point de parler de déshumanisation. Et la déshumanisation, ça fait référence, si vous voulez, à un bousculement qui existe dans le rendu de l'émotion, dans le rendu de l'affect. Parce que et Christiane Feral-Schul le décrit très bien, quand une personne comparaît derrière un écran, on n'observe pas la façon dont elle va rendre son propos de la même façon que si elle était physiquement présente. Le corps s'exprime par un rendu d'émotion, par des mains qui tremblent, par une pupille qui est plus ou moins dilatée, par une main qui bouge sur une table. Lorsque l'on filme une personne et qu'on projette l'image de cette personne sur un écran de visioconférence, on ne voit pas la personne dans son entier. Donc, il y a déjà une adaptation qui est imposée par le cadrage qu'on fait de la personne. Alors, on peut cadrer, on peut faire un gros plan sur un visage, on peut, à l'inverse, donner une vue beaucoup plus lointaine de la personne. Ce cadrage, la détermination de la façon dont elle sera montrée, va influencer la perception qu'on va se faire de la personne à juger.
Et vous l'écrivez aussi, ça vaut, par exemple, pour les experts, dont des études montrent que selon qu'ils font leur rapport d'expertise devant une caméra, projetée ensuite, séquence projetée dans le procès, ou selon qu'ils viennent eux-mêmes encore faire le rapport rapport de leur expertise dans le procès. Ils ne rendent pas aussi vivant le rapport de cas et ne parlent pas exactement de la même façon. Il y a des études précises faites là-dessus.
Il y a des études plus à l'étranger. Les études dont vous parliez, elles ont été menées aux États-Unis. Elles ont été également menées au Canada. Elles sont d'ailleurs un peu anciennes. En tout cas, elles tendent à montrer que ça concerne pas uniquement la personne qui comparaît en visioconférence. Ça concerne les experts, ça concerne les témoins, parce que la personne s'adapte au fait d'être filmée. Donc on s'adapte chacun d'une manière différente. Certains savent conjuguer très bien avec le fait d'être filmé, de voir leur image, de savoir leur image en tout cas projetée. D'autres sont beaucoup plus démunis face à la présence d'une caméra dans leur champ de vision, au fait de ne pas être physiquement présent. La personne qui va être filmée n'aura pas le même champ de vision de la salle, elle ne verra pas le public. Donc c'est un ensemble d'éléments avec lesquels il faut composer et avec lesquels chacun compose de façon différente.
Qui est peut-être quelque chose aussi à réinventer, hein, parce que ce sont des réflexions qui ont eu évidemment lieu et qui ont encore lieu sur, à l'époque des premiers chats sur Internet. Ce n'est pas vraiment se parler que de se parler derrière des écrans, ce n'est pas vraiment discuter que de s'envoyer des textos, ni de s'écrire que de s'envoyer des mails. Toutes ces lignes bougent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réinventer dans la procédure pénale et dans le décorum, dans le rituel du procès avec ces nouvelles technologies?
Les choses à inventer, elles essaient de l'être par des lignes directrices que les professionnels demandent, qui sont en train d'être conçus et d'être réfléchis pour être mis à leur disposition, concrètement, pour savoir comment s'utilisent ces outils, concrètement, comment cadrer, est-ce qu'il faut prendre en compte des paramètres très matériels et qui peuvent paraître finalement trop techniques par rapport à ce qui se passe, mais qui sont fondamentaux, les jeux de lumière, les revêtements, du sol, le revêtement du mur, faut-il positionner la personne à un endroit plutôt qu'un autre? Quelle est la bonne distance pour placer un écran des yeux du président qui va regarder cette personne, des yeux du témoin qui va entendre une partie civile à distance? Donc voilà, les réflexions, elles sont en train de prendre forme, de prendre vie, et elles sont nécessaires. Voilà ce qui est en train de se faire et ce qui devra se faire pour utiliser ces techniques qui vont l'être de plus en plus.
Alors, on a parlé des différents réseaux privés qui permettent aux avocats d'échanger entre eux des documents, mais aussi aux juges d'échanger entre eux des documents, des messages. Est-ce que l'introduction de l'informatique et des nouvelles technologies, toujours dans le cadre de cette discussion, peut-être scinde de plus en plus les professions qui sont engagées dans les procès et introduit une distance plus grande?
Je ne sais pas si elle scinde les professions, elle scinde les mentalités, c'est-à-dire qu'au sein de ces professions, il y a une scission, c'est abusé de la traduire comme étant binaire, mais vous avez une scission entre les gens qui y sont favorables et ceux qui ont des craintes, voire qui ne sont pas pour une introduction aussi importante de la technique. Ceux qui y sont favorables, quelle que soit la profession, vont tenter de se familiariser avec l'utilisation de la technique et vont nécessairement être obligés de faire un pas vers la profession avec laquelle ils échangent. Donc en ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de frontière qui se crée ou qui s'aggraverait, si vous voulez. Maintenant, si cet échange entre les professions n'est pas fait, effectivement, la technique peut venir en tant que nouvelle composante et en tant qu'élément extérieur devenir un facteur perturbant et davantage perturbant que les relations ne le sont à l'heure actuelle, si vous voulez.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas négliger l'aspect financier de l'introduction des nouvelles technologies et de ces réformes. Est-ce qu'on gagne de l'argent? Est-ce qu'on gagne du temps? Puisque ce sont deux des objectifs.
Alors oui, on gagne du temps parce que si on prend des exemples concrets, l'exemple que je citais de l'utilisation de la visioconférence tout à l'heure pour une personne qui est placée en détention, le faire ou la faire comparaître en visioconférence, c'est éviter qu'une escorte de gendarmes, de policiers, vienne l'encadrer à la sortie de la maison d'arrêt pour la transférer en palais de justice. Donc c'est une économie de personnel, qui signifie une économie de moyens financiers, c'est également une économie de temps. Donc il y a des économies qui sont quantifiables et qui sont mesurables à cet égard. Maintenant, il y a un transfert de coûts qui est évident aussi, c'est-à-dire que quand on envisage l'utilisation de la technique, notamment pour ce qui est de la numérisation, numériser des dossiers de procédure, ce dont vous parliez au début de l'émission, on aboutit certes à... avoir sur un CD-ROM ou une clé USB un dossier qui initialement comprend des milliers parfois de codes, c'est-à-dire de feuilles papier initialement. Donc ça peut faire gagner du temps à l'utilisateur qui va pouvoir utiliser son CD-ROM et sa clé lorsqu'il est en déplacement. Mais ça peut également être un transfert de coût si la personne se rend compte finalement qu'elle a besoin du papier encore pour lire son dossier, pour le travailler. Donc le coût, il est transféré parce que si elle veut le réimprimer, pour aboutir à la situation initiale...
C'est-à-dire qu'on n'aura pas beaucoup avancé.
On n'aura pas beaucoup avancé, mais on constate à l'heure actuelle encore que le besoin, il est présent.
Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en effet, numériser des documents, si c'est pour les réimprimer ensuite pour travailler dessus, c'est vrai qu'on...
On a avancé, si, parce que le transfert de coût fait que le coût initial est déplacé. Il n'est plus à la charge de celui qui le supportait initialement. Donc on a avancé à cet égard. Il y a un gain financier, et après, à charge pour l'utilisateur d'arbitrer, de savoir s'il arrive à se familiariser avec l'outil, d'arriver à se former, à développer de nouvelles techniques, à une nouvelle appréhension d'un dossier, par exemple.
D'une manière immémoriale, on reconnaît trois grands secrets professionnels, ce qu'on appelle la trilogie des secrets, le secret professionnel qui intéresse le médecin, l'avocat et le prêtre. Depuis le code Napoléon...
Le prêtre ou le ministre du culte.
Ou ministre du culte. Prêtre est bien évidemment ministre du culte. Ces secrets qui existaient au Moyen-Âge, hein, dans l'ancien droit, ont été consacrés tout d'abord par le code pénal de 1810 et puis par toutes les réformes que nous connaissons en ce qui concerne le nouveau code pénal. Que disent les textes? Ben, les textes disent ceci, que les professionnels, les personnes qui reçoivent des informations à caractère privé, qui reçoivent des informations confidentielles, eh bien, sont tenues au secret professionnel, et s'il livre ces informations, eh bien, il y a des sanctions pénales.
Revoilà Antoine Garapon, cette fois, il s'entretient avec Thierry Massy, qu'on entend à l'instant, avocat, dans l'émission Le Bien Commun, diffusée en 2001 sur France Culture, où il est question du secret professionnel. Là aussi, il remonte, lui, et il fait l'histoire d'un métier, de plusieurs métiers pour qui le secret est très important. Qu'en est-il, justement, du secret professionnel, du secret des audiences, du secret des dossiers? Quand on va pouvoir faire circuler autant de données aussi vite, par des clés USB, sur intranet, sur Internet? Comment est-ce que la loi entoure tout cela aujourd'hui?
Il y a une adaptation des textes qui prennent en compte l'utilisation des technologies quand on parle de dossiers numérisés, donc pour donner accès à la copie du dossier notamment qui désormais donc est dématérialisé sur un CD. Donc le code de procédure pénale encadre cette possibilité pour le juge de délivrer des copies du dossier. C'est encadré aussi dans l'utilisation que l'avocat fait de ces techniques, dans l'échange qu'il peut en faire avec son client quand il communique par la communication électronique, quel type de données on peut échanger, qu'échange-t-on. C'est encadré quand on pense aux technologies en tant que mode de preuve, puisque les modes de preuve trouvent un champ spécifique dans le code de procédure pénale. Donc toutes ces nouvelles formes probatoires ont des règles, que ce soit pour en limiter la durée, pour en cantonner l'utilisation. Qui sont développés.
Alors si on essaie d'être un peu plus concret par exemple sur le terrain des preuves.
Alors sur le terrain des preuves, on a de nouvelles techniques qui permettent d'intercepter à distance par exemple une communication qui a lieu sur un ordinateur par la personne. On peut appréhender à distance ce qui se trouve sur un écran d'ordinateur ou ce que la personne aura échangé dans une boîte, dans une messagerie électronique.
Et ça, on a le droit de le faire. C'est pas une atteinte à la vie privée.
Alors, on a le droit de le faire selon le type de procédure. On a une distinction entre les procédures de droit commun, des procédures en criminalité organisée, donc pour un champ d'infraction spécifique qui appelle un régime juridique spécifique qui permette plus de choses en termes probatoires parce qu'il y a une gravité de l'infraction qui justifie certaines entorses, comme vous le dites, à la vie privée. Mais néanmoins, on est sur un encadrement de la durée, donc ça peut être 4 mois, ça peut être 6 mois, selon le stade de la procédure, selon le type de preuve dont on va parler. Mais donc c'est un encadrement en termes de mois, c'est un encadrement par la personne qui va délivrer l'autorisation de faire pratiquer une interception par exemple, qui se trouve être un magistrat, en termes de renouvellement dans la durée, si on s'inscrit dans un renouvellement. Donc voilà le type d'encadrement qui permet de le faire, pendant combien de temps, à quel moment de la procédure et pour quel type d'infraction.
Et les justiciables ont tous droit à avoir accès librement aux données qui sont comme ça regroupées à leurs propos et aux propos des affaires qui les concernent.
Alors là, on entre dans un champ qui concerne davantage la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, sur l'appréhension des données à titre personnel. Donc quand on pense aux fichiers, notamment dans lesquels sont inventoriés un certain nombre d'informations, là il faut se référer au champ de la CNIL, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à des données qui nous concernent, sous réserve d'en avoir fait la demande en respectant les formes, les formalités pour le faire. Et c'est pareil, il y a des délais impartis, il y a une formalité pour présenter sa demande. De façon globale, ce que vous dites, tout le monde ne peut pas avoir accès à tout, à n'importe quel moment, de façon illimitée, évidemment.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
J'ai pas reconnu cette voix. 14h51 sur France Culture en tout cas. À 7h06 chaque jour, procès et discussions se suspendent et laissent la parole à quelqu'un qui nous raconte un moment important pour lui, des moments de bascule, des moments où ça change. Cette semaine, le musicien malien Balaké Sissoko se prête à l'exercice et aujourd'hui il nous raconte comment sa carrière précisément bascule de la place de fonctionnaire qu'il occupait à l'ensemble musical national du Mali depuis son plus tendre âge à un projet de musicien solo qui lui ouvre de nombreuses possibilités de collaboration musicale, notamment en France.
Bon, en fait, là, j'avais un ami burkinabé qui s'appelle Lassine Koulibaly. On est amis presque 30 ans. C'est lui qui m'a beaucoup adoré parce qu'il est venu au Mali parce qu'il devrait faire un film qui s'appelle... le monsieur, il s'appelle Dragos, ben c'est un cinéaste burkinabé, donc c'est son ami. Donc comme il écoute un tout petit peu la musique malienne, ben c'est à côté quoi. Donc il est parti à l'Ensemble instrumental national du Mali en demandant que la jeunesse un joueur de kora. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc on a fait une résidence à Burkina là-bas. Donc ils m'ont fait jouer de leur film. Donc là, j'ai fait la musique. Donc de là qu'on est devenu amis. Il dit, voilà, que j'aimerais bien que là, tu fais une carrière internationale, solo, tant. Donc je dis, ouais, ben pourquoi pas, là, je suis intéressé. Il dit que, ok, là, j'ai le contact en France. Donc du coup, il a contacté Philippe Krum. Donc c'est lui qui était la première de faire mon album solo. Donc c'est de là que... Donc, tous les trucs sont déclenchés. Bon, c'est ça aussi, là, je suis très content. Et depuis que là, je suis commencé jusqu'à aujourd'hui, je suis content de tous ces résultats parce que là, ça commence à partir. Donc, jusqu'à présent, c'est toujours là, ce sujet. C'est là qui m'a facilité vraiment de faire des différentes collaborations. Même là, en tant qu'on est malien, mais il y a beaucoup de gens, on parle entre nous que le français, parce que là, je ne connais pas leur langue, ils ne connaissent pas aussi la langue que je parle. Donc là, c'est des ethnies vraiment différentes. Donc c'est la tonalité aussi, vraiment. Et chaque culture a sa manière d'aborder et sa musique. Donc c'était ça, parce que donc c'était ça l'idée de perdre de l'indépendance du Mali et Modibo Keïta. Donc il a réuni toutes les ethnies pour éviter vraiment des trucs raciaux, tout. Même si on se comprenait pas et dans le même langage, donc on puisse communiquer entre nous et la langue française. Donc de là, il suffit de communiquer. Donc même c'est ça que je fais ici, parce que là je connais pas la musique baroque ou quoi, mais il suffit de m'expliquer. Donc là, je peux rentrer dedans, même si c'est pas ma culture. Donc là, c'était ça le sujet. Donc depuis au Mali, là, je commence à ça. Donc c'est ça qui m'a beaucoup facilité. Même si je parle pas, parce que là, je travaille avec des Anglais ou des quoi, mais je parle pas de leur langue. Mais bon, en France, c'est moins compliqué pour moi parce que là, je comprends un tout petit peu la langue. Mais s'il s'agit dehors de la langue française aussi, donc là, c'est plutôt beaucoup compliqué. Mais là, je parle pas, mais dans la musique, on puisse bien discuter. Mais quand tu es musicien, il faut avoir des idées aussi, comment collaborer. Et puis, essayer de faire des trucs que tu l'aimes. Et puis, essayer de partager aussi. donner et puis apporter.
Vieni, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do. Chi-boom-chi-boom. Do-do-do-do-do. Chi-boom-chi-boom-boom. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom. Do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom. Do-do-do-do-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do. Chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do. Chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do.
Ça marche très bien, toujours, cette chanson. Paolo Conte, c'est vous qui souhaitiez entendre cela. Sophie Zotta-König, pourquoi ?
Parce que c'est une chanson dont j'aime particulièrement cet air si léger, si frais, qui contraste...
Avec quoi ? Peut-être, avec le quotidien des avocats avec, de la justice française ?
Non, avec, avec oui, peut-être un univers plus, plus chargé, plus lourd. Donc on a évoqué à demi-mot là pendant une heure. Et puis parce qu'elle elle reflète ce qui m'a porté à la fin de cette thèse, qui reflète une année de travail voilà, qu'elle a bercé des raisonnements indirectement aussi. Donc voilà, j'avais à cœur de la faire partager là.
Et puisque vous en parlez, qui a du courage lira les 740 pages de votre thèse Technologie de l'information et de la communication et défense pénale, c'est publié chez Maré Martin. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir été avec nous cet après-midi. Les Nouvelles Vagues, c'est terminé. Vous pouvez les réécouter sur franceculture.fr. C'est aussi un site sur lequel on peut s'écrire et se lire. On est toujours ravis de recevoir vos messages, pareil via Twitter et Facebook. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, ça vous permet d'avoir toutes les émissions chez vous. Merci à Romain Debec de Lièvre, Alice, Ramon, Inès Duperron qui imagine cette émission avec moi et à Soumanina qui la réalise. Merci à Mickaël Simon et Romain Couturier de la discothèque. Aux manettes aujourd'hui, Jean-Guilain Meige et aux droits d'auteur, Raphaël Bézikian.